À la lecture de ce texte de Luc, on peut ressentir une certaine gêne. Quelle violence dans les propos de Jésus. Quelle exclusion dans son message. On peut aussi s'interroger sur deux contradictions qui semblent apparaître. La première, c'est entre la colère de Jésus dans ses propos et puis la bienveillance au cœur de la bonne nouvelle, celle du salut qui est offerte à tous. Seconde contradiction au verset 30, il y a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Cette phrase est restée très célèbre, sans doute la plus célèbre de ce passage. En fait, en ce qui concerne la violence des paroles de Jésus, n'oublions pas le contexte. Il est en train de marcher vers Jérusalem et il ne veut pas mâcher ses mots. Il veut renvoyer chacun à ses responsabilités et combattre l'injustice. La méthode des prophètes, c'est celle-là. C'est dangereux, parce que ça peut finir avec un assassinat. Ne pas dire ce qu'on a sur le cœur, c'est dangereux aussi. On peut finir avec un ulcère, diront certains. Jésus condamne l'injustice, mais par son exemple, il autorise l'expression d'une saine colère. Il faut savoir exprimer les choses plutôt que de les garder en soi, intérieurement, et souffrir par son corps. Exprimer ce qu'on ressent n'est pas un mal, tant que cela se passe dans le respect de l'autre, et exprimer une saine colère, cela ne signifie pas avoir mauvais caractère. Je me souviendrai toujours des paroles de ma propre mère qui a un certain caractère et à qui on a toujours dit qu'elle avait mauvais caractère. En fait, c'est qu'elle s'exprimait tout simplement. C'est tout simplement être conscient que nous devons réagir, par exemple devant l'injustice. C'est être pleinement vivant plutôt qu'indifférent. C'est être vivant que de savoir réagir, de ne pas devenir indifférent au monde. Affirmer son caractère, c'est aussi ne pas céder devant la dictature d'une bienveillance hypocrite ou d'une neutralité coupable devant une situation inacceptable. Jésus, au lieu de garder sa colère en lui et de se laisser ronger par elle, l'exprime tout simplement, et comme ça au moins les choses sont claires pour tout le monde. Les colères de Dieu sont souvent des colères constructives. Elles nous autorisent à ressentir, nous aussi, de la colère face à l'injustice. Elles libèrent nos énergies pour aller de l'avant dans la direction qu'il nous indique. Alors, quelle direction, me demanderez-vous? Et puis, si certains derniers seront les premiers, ou si certains premiers seront les derniers, que comprendre? Le texte que nous avons lu nous donne une première indication. Je mettrai un signe parmi eux. De quel signe s'agit-il? En fait, Dieu a promis de mettre un signe parmi les peuples, le signe d'une révolution. Ce sera un signe extraordinaire, un signe qui bouleversera l'ordre, un signe qui donnera leur chance à toutes les nations. N'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? C'est la question que pose un homme au début de notre texte. Il se pose des questions alors qu'il est en route vers Jérusalem. Mais nous ne connaissons pas grand-chose de cet homme. Nous ne savons pas qui l'a conduit à poser cette question, ce qui l'a amené à lui poser cette question. A-t-il des doutes quant à son propre salut ou du salut d'un de ses proches? Peut-être les deux à la fois. Quant à nous, nous vivons dans un autre contexte, un contexte où les questions essentielles telles que celles du salut éternel, sont souvent mises de côté. Au moins jusqu'à un certain âge, j'ajouterai. Au profit de questions plus immédiates, des questions qui touchent notre famille, nos moyens de subsistance ou notre santé. Qui ose encore poser cette question? N'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés? Jésus ne répond pas à la question. Ou plutôt, il répond, comme souvent, par une interpellation ou une autre question. Ici, il déplace la question de trois manières. À une question plutôt orientée vers le futur, Jésus répond au présent. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ou autre traduction, combattez pour entrer par la porte étroite. Vous parlez de futur à venir, moi je vous parle du présent avec cette exhortation impérieuse. Combattez. Efforcez-vous. Efforcez-vous, on dirait aujourd'hui, faites tous les efforts nécessaires. Le salut à vivre, à rechercher, c'est maintenant, car un jour il sera trop tard. Deuxième façon de déplacer la question, la problématique, c'est un questionnement sur soi-même plutôt que sur les autres. Plutôt que de vous poser mille et une questions sur les autres et leur devenir, regardez en vous-même, considérez votre propre vie. Le salut ne concerne pas d'abord les autres, mais vous-même. Plutôt que de demander combien seront sauvés, demandez-vous d'abord si vous avez tout mis en œuvre pour être sauvé, si vous vous efforcez de vivre du salut de Dieu. Enfin, troisième déplacement du lieu de cette décision, c'est la manière dont la question est posée. Il semble que l'interlocuteur a dans la tête que le nombre et l'identité des sauvés seraient de ces mystères ésotériques que seul Dieu connaît. Non, c'est aussi du ressort de notre décision personnelle à chacun d'entre nous, de notre engagement de vie à prendre ici et maintenant. La porte est ouverte. Souvenez-vous le texte de l'Apocalypse que j'ai mis en rapport, en association, « Je placerai devant toi une porte ouverte que nul ne pourra fermer ». Alors ne dites pas que vous n'y êtes pour rien, comme si cela avait été décidé ailleurs, par un autre que vous. Non, c'est notre liberté de nous approcher de cette porte ouverte. Par ce déplacement du temps, des personnes et du lieu de décision, Jésus ne donne pas une réponse directe, mais un ordre, une injonction un peu mystérieuse. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alors, quelques mots sur cette porte étroite et pourquoi je vous ai lu des textes, notamment de Néhémie, sur la muraille. Il s'agit sans doute de la petite porte qui se trouvait dans les villes, à côté de la grande porte principale, ou à l'intérieur de la grande porte elle-même. Parfois, on faisait des plus petites portes. À la tombée de la nuit, on fermait la grande porte, mais il restait cette petite porte annexe pour les retardataires. Cette porte étroite avait les dimensions d'un homme. On ne pouvait donc pas passer à plusieurs, mais seulement un par un et en subissant un petit contrôle d'identité. Jésus, en parlant de cette porte étroite, attire notre attention sur le fait que le salut n'est pas un salut collectif, mais un salut individuel, un salut pour chaque personne. Cette porte étroite invite à un retour sur soi, indépendamment de toute appartenance à un groupe. Pour l'homme qui pose cette question et pour tous ceux qui sont là, cela signifie qu'ils ne seront pas automatiquement d'un côté ou de l'autre, d'un bon côté simplement parce qu'ils appartiennent au peuple juif. En fait, c'était un message pour que le peuple juif prenne conscience de cette grâce individuelle qui lui est apportée. Jésus laisse entrevoir qu'ils pourront être devancés par d'autres, par des gens qui se trouvent d'ailleurs aux quatre coins de l'horizon, et que les Juifs ne sont pas les seuls à appeler à être sauvés, mais que tout le monde est appelé à être sauvé. Et quand il dit « certains derniers seront les premiers et certains premiers seront les derniers », il veut nous dire que tous les êtres de tous les peuples sont appelés à égalité, à être sauvés. Et c'est cette égalité devant la grâce qui nous interpelle depuis des siècles et des siècles, de toujours de la même manière. C'est aussi le sens du texte que nous avons lu dans l'Apocalypse. « J'ai placé devant toi une porte que nul ne peut fermer. » Ce qui compte, c'est la grâce qui nous est donnée à toutes et à tous, sans autre condition, parce que la porte ne sera jamais fermée. Par cette porte étroite, non seulement on ne peut y entrer qu'un par un, comme je l'ai dit, mais elle n'est pas prévue non plus pour y faire passer des marchandises. On ne peut pas entrer encombré de bagages ou de provisions. On ne peut entrer que dans le dénuement, dans un certain dépouillement. En fait, la condition peut-être unique pour être sauvé, c'est de prendre conscience de son propre dénuement, de sa petitesse devant l'univers, devant la création, et de se présenter avec humilité devant la porte. Une de nos paroissiennes qui avait voulu être présente ce matin m'avait adressé cette remarque. La porte étroite évoquée dans le texte de Luc fait penser à une panique, celle de la foule qui se presse dans le métro de la porte d'Orléans, ou une autre porte pour ceux qui ne sont pas à Montrouge, ou ceux qui se font petits pour passer plus facilement. En fait, elle a raison, la porte étroite est aussi le symbole de la difficulté avec laquelle il est nécessaire de se faire petit, de rester simple même si on a réussi dans la vie, de cultiver l'humilité. Ce n'est pas simple, qui consiste à se mettre au service des autres plutôt qu'à se mettre en avant. Beaucoup ne pourront pas rentrer. Le maître renvoie les ouvriers d'iniquité, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas traité les autres avec équité. L'iniquité, c'est le contraire de l'équité. Ceux qui se seront trop mis en avant, ceux qui auront dit « pousse-toi de là que je m'y mette ». Combien de fois nous en rencontrons dans notre vie quotidienne ? Au XVIe siècle, je vous rappelle que la réforme a remis en lumière le fait que nous sommes tous sauvés de manière gratuite. Dans notre texte, la porte étroite symbolise aussi cette gratuité. Pour bénéficier de ce salut gratuit, il faut renoncer à la présomption de pouvoir se sauver par soi-même. Oui, cette porte étroite ne peut laisser passer que celui qui s'est débarrassé de toute idée illusoire sur lui-même et sur sa propre capacité à se sauver tout seul. Et ça ne va pas de soi, cela demande de l'énergie et de la volonté. D'où la phrase de Jésus qui dit « Efforcez-vous ». Certains n'arrivent pas à entendre cela, ils n'entrent pas. Et lorsqu'ils voient entrer des gens qu'ils considèrent moins dignes qu'eux, alors leur frustration, leur jalousie se traduisent par des pleurs et des grincements de dents. Tout cela parce qu'ils ont été incapables de vivre la gratuité de l'Évangile. Ceux qui passent par la porte étroite, ce sont ceux qui ont pris conscience de leur petitesse par rapport à la grandeur divine. Et passer par la porte étroite, c'est donc en finir avec toute autre tentative de se comparer aux autres. C'est en finir avec la tentative de trop s'affirmer soi-même. C'est surtout en finir avec toute tentative d'écraser l'autre. Pour passer cette porte étroite, nous n'avons pas d'autre alternative que de vivre cette part d'humilité que nous devons cultiver. La question de cet homme à Jésus est en fait mal posée, parce qu'elle sous-entend que Dieu arbitrairement sauverait les uns et condamnerait les autres, comme on pouvait le croire sur les peintures du Moyen-Âge, que vous avez sans doute admirées dans des églises, avec le jugement dernier qui a été très représenté. Or, ceux qui n'entrent pas s'empêchent eux-mêmes d'entrer, en fait. N'oublions pas que la porte reste ouverte. Ils se privent eux-mêmes de la grâce par orgueil. À aucun moment, Dieu ne leur ferme la porte. Au contraire, il les invite à faire tous leurs efforts pour qu'il n'en soit pas ainsi. Notre choix est donc de nous efforcer de passer par une porte étroite, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Porte étroite et difficile à franchir, car la passer, c'est l'accueillir au cœur de notre vie. C'est laisser au cœur de cette vie, finalement, son amour vaincre notre orgueil. C'est laisser son pardon recouvrir nos fautes. C'est laisser sa lumière éclairer nos ténèbres. Étroite et difficile à franchir, car c'est accepter sa grâce et son pardon qui nous sauve, plutôt que de vouloir nous sauver nous-mêmes par nos propres forces, nos exploits ou nos œuvres. Étroite et difficile à franchir, car ce Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, demande comme fruit de la foi et de la grâce une vie de disciple à l'écoute du Maître, une vie de service et d'amour du prochain. Être sauvé, vivre de son salut, c'est ici et maintenant. Accueillir par la foi son amour dans nos vies et laisser cet amour irriguer notre existence, la traduire par des paroles et des actions de paix, de justice, de fraternité. Être sauvé, vivre de son salut, c'est choisir un chemin de vie, une vie par son amour qui n'a pas de fin, et sur laquelle la mort même n'a pas de prise, la vie éternelle. Sur ce chemin de vie, il n'y a pas que de la colère, il y a aussi beaucoup de joie, de gratitude, de tendresse à vivre entre frères et sœurs, parents et enfants, hommes et femmes, compagnons de voyage. Quant à nous qui avons entendu l'Évangile, allons de l'avant. Dans l'assurance que Dieu ne permettra pas qu'un seul de ses péris, de ses petits, ne périsse. Personne ne sera oublié. Nous sommes entrés par cette porte étroite, nous avons pu entrer dans cette gratuité de l'Évangile. Et si ce n'était pas encore le cas, nous pouvons le faire maintenant. Il est encore temps. La porte est toujours ouverte. Amen.